Pouvons-nous commencer cette prédication ? Ça ne sera pas tout de suite. J'allais dire ce culte par quelques versets que je prendrai dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ce psaume 103, pour moi, il évoque quelque chose que vous n'avez certainement jamais connu, que vous n'avez pas vécu, mais il fut un temps où je n'étais pas forcément croyant. C'était bien avant ma conversion. Le temps où je fréquentais ma belle famille et dans laquelle il y avait une sœur, qui était une tante, une grand-tante d'Anne-Marie, dont les articulations étaient toutes déformées, les pieds, les mains, les bras, tout était déformé, mais elle n'aurait jamais commencé un repas sans dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Et je la revois encore avec ses mains complètement déformées, en train de tisser quelque chose dans ce style-là pour unir ses mains et faire en sorte qu'il y ait un temps de recueillement. Mon introduction, c'est cette femme en souffrance qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». J'aurais pu commencer ce culte, cette prédication, décidément. Pour moi, le culte, c'est une prédication, ce n'est pas juste. J'aurais pu commencer cette prédication par vous dire « Meilleurs vœux ». Car il convient de saluer les uns et les autres en début d'année en leur disant « Meilleurs vœux ». Souhaitez aux uns et aux autres ce qu'il y a de meilleur. Et moi, ça me fait toujours un problème. Ça me fait toujours un problème, ce meilleur vœu que l'année 2019 soit une année meilleure. Ça voudrait dire que l'année 2018 n'a pas été une bonne année. Et pourquoi est-ce qu'il faut, au début de l'année, avoir ce réflexe, cette parole de dire « meilleur vœu ». Car en fin de compte, c'est comme si quelque part, dans le temps, on souhaitait que l'année soit meilleure que l'autre. Donc il y a un temps, un moment, un jour où il faut espérer quelque chose de mieux. Et moi, ça me fait problème. Ça me fait problème, car en fin de compte, en dehors de ce rituel des bons vœux, qu'est-ce que je fais du restant de la vie, de ma vie? Je me souviens encore, excusez-moi, hein, mon grand âge, je me souviens de la semaine dernière. Dimanche dernier, mon église était rassemblée, premier culte de l'année, et notre frère Michel Pierson, qui présidait le culte, a souhaité ses bons vœux aux uns et aux autres. Et tout le monde lui a dit meilleurs vœux, beaucoup de bénédictions. Beaucoup ont dit, plusieurs ont dit, pas moi. Parce que moi j'ai du mal avec tout ça. Mais plusieurs ont dit, surtout une bonne santé. Hein. Moi ce qui m'intéresse, c'est principalement la santé spirituelle, plus que cela physique. Mais quand on souhaite les choses, on souhaite généralement une bonne santé physique. Ah, c'était un jour de joie pour la famille Pierson, puisque le petit-fils avait son anniversaire, un an, le dimanche après-midi. Le dimanche soir, la sœur de celui que l'on avait fêté se retrouvait avec à l'hôpital, aux urgences, et un peu après, Michel se retrouvait aussi à l'hôpital avec plus de 40 feux de fièvre, des problèmes à ne pas en finir, la crainte, la peur de ce qui était latent de soi en. Et puis, bon, je vous rassure, s'il faut que je rassure, c'est que demain, logiquement, il devrait sortir de l'hôpital. Nos vies sont très problématiques. Car en fait, compte, que sera cet après-midi? Que sera demain? Que sera le mois prochain? Et j'aimerais prendre un autre texte de l'Écriture que j'ai entendu ces derniers temps, puisque je fréquente pas mal, enfin, je suis membre de mon église, mais appelé à prêcher à gauche et à droite, je fréquente pas mal d'églises et assemblées différentes, et j'étais tellement choqué par les interprétations qui me semblent être abusives de ce texte que j'ai eu à cœur ce matin de le partager avec vous. Pourquoi dis-tu, Jacob, c'est en Ésaïe 40, verset 27, pourquoi répètes-tu, Israël, ma destinée est cachée à l'Éternel? Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni s'en lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est au bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Situons d'abord ce texte dans son contexte. Quand le prophète parle au nom de l'Éternel, que sa voix s'élève, c'est dans un temps de détresse. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Israël est morcelé de deux royaumes, royaume du nord, royaume du sud. Le nord, en quelque sorte, il n'existe déjà pratiquement plus, car en fait, quand il est envahi par les armées de Sennacherib, les Assyriens sont descendus sur Israël pour passer vers l'Égypte. Samarie est tombée 721 avant Jésus-Christ. Samarie est rayée de la carte. Les personnes sont déportées à Ninive et les armées descendent sur Jérusalem. Jérusalem est assiégée. Jérusalem n'a plus de ressources. Jérusalem est, la famine est dans la cité, dans la capitale. Les gens même ont du mal à trouver de quoi boire. Nous sommes dans un contexte de guerre, nous sommes dans un contexte de chaos, nous sommes dans un contexte de destruction totale et complète. C'est dans ce contexte-là que se dresse le prophète. Alors vous pouvez comprendre maintenant peut-être pourquoi le prophète dit « Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi répètes-tu Israël ?» Ma destinée est cachée à l'Éternel. Une phrase terrible, une phrase que l'on retrouve dans la bouche de Job. Job qui est celui qui est atteint par la maladie, par la souffrance, par la détresse, par les deuils, qui ne comprend pas pourquoi tout cela le frappe et pourquoi cela l'afflige. Lui-même, dans le chapitre 3, dira qu'en fait compte, il est sur une route qui est cachée. Il ne sait pas où il va. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces mêmes propos vont se retrouver dans la bouche de Jérémie, qui va aussi connaître des temps où on ne voit pas l'avenir, où on ne voit pas ce qui va se passer, où on ne voit pas d'issue. Combien de fois est-ce que j'ai entendu autour de moi des personnes qui me disaient, mais au fond, pourquoi, des jeunes qui me disaient, pourquoi faut-il aller à l'école? De toute façon, c'est pour aller au chômage. Alors c'est vrai que longtemps nous avons été serviteurs de Dieu dans le borinage, et quand on est petit-fils de chômeur, que on est chômeur potentiel de la troisième génération, on peut se poser des questions. Mais où est mon avenir? Combien de personnes d'un certain âge ai-je visité dans les maisons de retraite qui disaient, mais en fin de compte, je n'ai plus d'avenir. Tout est terminé. Je suis plus bon à rien. Combien de personnes peuvent dire, et se souvenir de ces phrases où, en fin de compte, l'avenir est fermé, l'avenir est bouché, il n'y a plus d'avenir, il y a une... Comme si, quelque part, le chemin que l'on emprunte est un chemin qui est un chemin de mort. Mais si nous nous souvenons du psaume 23, le psaume 23 nous dit aussi, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien souvent nous pensons que la vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée que l'on emprunte au dernier jour, ou quand on a 71 ans comme moi, on se dit, ouf, il n'y a plus grand chose à vivre. Mais en fait, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas le temps de la fin, mais c'est le temps que nous vivons ici. Car tous les pèlerins qui redescendaient de Jérusalem vers leur ville, quand ils étaient montés pour les grands pèlerinages, chaque fois, ils savaient qu'en sortant de Jérusalem, on les guettait. Ils étaient ceux qui étaient enviés. Leur vie était menacée. C'est pour ça que le pèlerin ne arrive à dire « Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours ?» Dans sa foi, il ajoute « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Frères et sœurs, nous sommes dans cette démarche. Qui peut dire ? Que demain, il vivra encore. Ma destinée est cachée à tes yeux. Israël. Ô Jacob, ça serait normal. Jacob, c'est quand même l'ancienne nature. C'est celui qui doute, c'est celui qui rue, c'est celui qui cherche à en sortir. Mais j'aime bien l'Écriture et j'aime bien la richesse de l'Écriture. Quand l'Écriture me dit « Pourquoi dis-tu Jacob ?» C'est le douteur. « Pourquoi répètes-tu Israël ?» Israël, c'est celui qui a lutté avec Dieu. Et donc on peut passer par des temps de ténèbres, on peut passer par des temps de difficultés lorsque l'on est croyant. Ça peut nous atteindre, ça peut nous arriver. Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu, comme si quelque part tu n'étais pas là. C'est Dieu qui parle, comme si je n'étais pas là pour prendre ta cause en main. Et c'est alors que Dieu nous interpelle. Dieu interpelle Israël en disant « Ne l'as-tu pas reconnu, ne l'as-tu pas entendu ?» Et si nous le traduisions littéralement de l'hébreu, on devrait « Ne l'as-tu pas parlé ?» Et là, que doit dire le croyant de l'Ancienne Alliance ? Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. C'est la confession de foi d'Israël. Nous confessons notre foi. Nous disons notre foi. Nous parlons, mais au moment de l'angoisse, au moment de la difficulté, bien souvent, en fin de compte, les rives de la foi nous quittent et nous commençons à patauger. Écoute, Israël, la foi que l'on confesse, la foi que Israël confesse. Il est le Dieu d'éternité, El Olam. Le Dieu d'éternité, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a la toute puissance de créer ce qui n'existe pas, de faire surgir ce que l'on n'a pas encore nommé. C'est lui qui est à l'origine de toute chose. Ce Dieu puissant, ce Dieu créateur. Mais il n'est pas seulement ce Dieu créateur, il n'est pas seulement celui qui crée les cieux et la terre, il est aussi, dit l'Écriture, l'Éternel. Alors quand moi je lis l'Éternel, je m'arrête et je repense. Et je repense à ce que veut dire l'Éternel. Ce Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, Exode chapitre 3, verset 14. « Qui dirais-je, dit Moïse, qui dirais-je qui m'envoie ?» Et Dieu lui répond, non pas un nom, mais une action, un verbe, je suis. Je suis, que l'on a traduit par je serai et ben, j'étais, je suis et je serai, ce que, en fait compte, second a traduit par l'Éternel. Ce je suis, c'est celui qui va délivrer Israël de la servitude. C'est celui qui va vaincre les pouvoirs, les autorités. Pharaon devra plier le genou. Quand je lis l'Éternel dans la Bible et dans l'Ancien Testament, je me retrouve avec ce Dieu sauveur. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant qui est le créateur des cieux et de la terre, mais c'est aussi celui qui sauve et qui délivre. Ma foi doit se nourrir de cette toute-puissance. Ma foi doit se nourrir de ce Dieu du salut. Ce Dieu qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue ni se lasse. Plus tard, un peu après, on parlera des jeunes hommes. Les jeunes hommes trébuchent bel et bien, dit l'Écriture, et les jeunes hommes, en fait, j'en suis plus, c'était un temps passé, mais c'est qui les jeunes gens? En fait, les jeunes gens, c'est ceux que David avait sélectionnés pour être sa garde rapprochée. Les plus endurants, les meilleurs soldats, les vaillants. C'est le même mot. Mais qui, dans 1 Samuel, est traduit d'une façon? Ici est traduit d'une autre façon, mais ce sont les mêmes. Ce sont des hommes aguerris, des hommes qui sont entraînés pour la guerre, qui sont des sélectionnés en quelque sorte, Eh ben, même eux, ils se fatiguent. Même eux trébuchent. Mais par contre, Dieu, lui, ne se fatigue pas. Dieu ne se fatigue pas, Dieu ne se lasse pas. Combien de fois dans mon ministère pastoral ai-je entendu des personnes qui disaient « Je sais, je raconte toujours la même chose et je redis toujours la même chose au Seigneur, je lasse le Seigneur. » C'est bien mal savoir qui est notre Dieu. Un Dieu qui ne se lasse pas. Qui ne se lasse pas d'entendre nos gémissements. Qui ne se lasse pas d'entendre nos récriminations. Qui ne se lasse pas. Dieu est celui à qui je peux tout dire. Même si à certains moments, quoique, après 50 ans de mariage, vous arrivez quand même à dire beaucoup de choses à votre époux, et à votre épouse, je dis pratiquement tout à ma femme, mais il y a des choses quand même que je lui dis pas, question de la soulager et de ne pas toujours répéter la même chose. Mais Dieu est celui à qui je peux tout dire et qui ne se lasse pas de m'entendre. C'est lui que l'on ne peut pas fatiguer. Son intelligence est insondable. Qu'est-ce que veut dire Dieu au travers de la bouche du prophète? Tout simplement que je méconnais Dieu. Et c'est vrai que nous avons une certaine approche de Dieu. C'est vrai que nous avons fait une certaine expérience de Dieu. C'est vrai que nous avons une certaine idée de qui est Dieu. Mais en fait, comme nous l'avons chanté tout à l'heure dans ce cantique que je ne connaissais pas, nos mots sont trop petits pour dire qui il est. Et c'est un fait que dans ma foi, il y a des choses que je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est vrai que nous l'avons entendu plusieurs fois ce dimanche, et ô combien cela est bon d'entendre que le Fils de Dieu, lui qui partageait l'éternité, lui qui était divin, n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, il s'est dépouillé, il s'est vidé pour venir dans notre humanité. Il s'est fait homme avec les hommes. Eh bien, je ne comprends toujours pas, moi, comment un Dieu si grand vient rencontrer un homme comme moi, aussi petit. Et c'est ce qui a provoqué le choc et qui m'a amené à la conversion. Comment Dieu qui est parfait se fait homme pour venir me rencontrer, moi qui suis imparfait? Comment un Dieu peut en arriver à accepter la croix pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Oui, vous me direz, c'est son amour. Mais moi, je comprends pas cet amour-là. Cet amour, il me dépasse de loin. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas la compréhension totale de ce que son amour est pour moi. Quel est le gros problème avec les musulmans? Eh bien, c'est ce problème-là. Il est inconcevable pour la plupart de l'humanité et des hommes et des femmes, il est inconcevable qu'un Dieu puisse venir mourir à ma place. Et c'est pour cela qu'en fait compte, ils mettent Jésus à la deuxième place. Et puis que de toute façon, ils en arrivent à dire dans le Coran qu'il n'est pas mort parce que c'est son enveloppe qui est mort. Il y a une substitution. Il y a une chose que je ne peux pas sonder, que je ne peux pas comprendre. Mais, oh, bienheureux ceux qui lisent la parole de Dieu et qui y croient, car en fait compte, dans cela, il y a une chose que je me suis aperçu, c'est que je ne suis pas tout seul à être dans cette incompréhension. Lorsque, dans le prophète Ésaïe, le même prophète, chapitre 6, l'année de la mort du roi Ozias. Dieu apparaît à Ésaïe, qui est dans cette position de sacrificateur. À ce moment-là, il est le même, le grand sacrificateur, puisque il est entré dans le lieu très saint. Et dans cet endroit, il voit Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? En fin de compte, l'Écriture dit tout de suite qu'il n'a vu que le bas, le pan de son manteau. Cela veut dire quoi? Tout simplement que Dieu est tellement grand qu'il n'est que l'on ne peut pas le percevoir. On ne peut pas le percevoir même quand on l'approche. Il est tellement grand, il dépasse de tellement notre compréhension des choses qu'en fait compte, il faut bien que nous mettions au diapason son intelligence est insondable. Il me dépassera toujours. Mais en tout cas, ce que le prophète affirme, c'est qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Et combien je rencontre de gens qui sont fatigués, fatigués de leur conjoint, fatigués de leur famille, fatigués de leur boulot, fatigués de la vie, fatigués. Il augmente la vigueur de ceux qui est à bout de ressources. J'en peux plus. Je suis tellement à bout qu'en fin de compte, ce que je voudrais, c'est mourir. Combien de fois ai-je entendu cela, de chrétiens et de non-chrétiens? Je suis à bout, fatigué. Mais un chrétien ne peut pas être fatigué. Un chrétien ne peut pas être dans la dépression. Un chrétien ne peut pas. Ça ne se fait pas. Et Élie, après ce combat sur le Carmel, quand il a défait les 400 prophètes de Baal, qu'il est reparti tout joyeux, tout fier, qu'il courait devant le cheval de Achab, il est arrivé à devant Jézabel, qui lui a dit « Ce que tu leur as fait, moi je te le ferai. » Pouf. Pouf. Et voilà notre Élie qui se dégonfle, qui part au désert, qui se met sous son genêt et qui dit « Seigneur, reprends-moi, il y en a marre. » Moi, j'aime bien lire la Bible, car la Bible est un livre qui me lit, qui me dit et qui me dit ce que je vis. Un livre qui me parle et qui ne me parle pas de choses extérieures, mais qui me parle de moi. Et je me retrouve là-dedans. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens trébuchent bel et bien. Mais j'en arrive au verset 31. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Ceux qui espèrent en l'Éternel, nous sommes invités à refaire le chemin d'Abraham, de relire le chapitre 4 des Romains, de revivre dans notre fort intérieur le verset 18, « Espérez contre toute espérance ». En fait, l'espérance que nous avons est un... Si, en fait, compte, notre espérance n'est pas soutenue par la foi, ce n'est qu'un espoir. Il y a une chance sur deux. Mais l'espérance aiguë dans la foi devient une assurance. Seigneur, fortifie notre foi, afin que notre espérance soit une assurance devant les choses. Et quand tout s'écroule autour de nous, quand nous nous retrouvons dans une situation de chaos, que nous puissions saisir cette espérance par la foi et pouvoir avec toi aller et reprendre notre envol. Ils prennent leur envol comme les aigles. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Au psaume 103, ils rajeunissent comme les aigles. Bien souvent, on me dit, oh, tu ne vieillis pas. Alors, je dis merci, c'est gentil à vous. Ça veut dire qu'il y a 20 ans, j'étais déjà très vieux alors, hein. Ils rajeunissent comme l'aigle. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Ben, tout simplement, j'aurais besoin d'un peu de... On peut lancer le PowerPoint? Une petite réflexion sur le rajeunissement de l'aigle et le comprendre. Oui. L'aigle est l'oiseau qui possède la plus grande longévité de vie. En fait, un aigle, il vit combien de temps? Il peut vivre jusqu'à 70 ans. Donc là, moi j'ai un an de plus que lui. Mais pour ceux qui y arrivent, à 40 ans, il doit faire une sérieuse décision. À 40 ans, ses griffes devenues courbes et trop flexibles ne lui permettent plus de saisir les proies dont il s'alimente. Son bec allongé et pointu devient trop courbé puisqu'il déchiquette avec la partie supérieure. Ses ailes sont devenues pesante à cause de ses plumes vieillissantes et trop grosses, quoique tous les ans il en perd. Pour lui, c'est maintenant trop difficile, très difficile de voler. Les aigles, 40 ans, hein, sont devant un choix, mourir ou faire face à un douloureux processus de renouvellement qui va durer 150 jours. 150 jours, ça fait combien, ça? 5 mois, hein. Ça va? En mois, ça fait 5 mois. C'est juste? Bien. Ce processus consiste à voler vers le haut d'une montagne, se réfugier dans un nid proche d'une paroi rocheuse, où il n'aura pas besoin de voler. Aussitôt trouvé cet endroit, l'aigle frappe la paroi avec son bec jusqu'à ce qu'il l'arrache. Une fois son bec arraché, l'aigle attend que naisse un nouveau bec. Qu'est-ce qu'il mange en attendant? Ben, rien, hein. Avec lequel il va ensuite arracher ses vieilles griffes. Quand les nouvelles griffes commencent à naître, il se met à arracher ses vieilles plumes. Ainsi, 5 mois plus tard, il se lance victorieux pour son fameux vol de renaissance. Il dispose maintenant de 30 ans de plus. Y a-t-il des moments dans la vie humaine où l'on peut refaire son bec, ses griffes, ses ailes? À votre avis? On peut arrêter? Bien souvent, nous nous posons la question, mais pourquoi? Pourquoi l'épreuve? Alors ne dites jamais que Dieu nous éprouve, parce qu'avec l'épître de Jacques, je dis « Dieu n'éprouve personne ». Mais c'est vrai que notre nature humaine et pécheresse est atteinte par la mort, par la maladie. Et comme il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, nous passons exactement par la même situation que les autres. Nous sommes amenés à passer par des situations d'épreuve. Mais l'épreuve, nous devons quelque part l'affronter en nous disant, Seigneur, non pas pourquoi à moi cette épreuve, mais que veux-tu que j'apprenne de plus de toi? L'épreuve est le moment où, dans ma perméabilité, Dieu peut le plus travailler. C'est le temps où je suis le plus perméable, car je suis le plus fragile. Je ne compte plus sur mes ressources, mais je vais compter sur ses ressources. Combien de fois est-ce que j'ai rencontré des personnes qui se relevaient d'un infarctus? Et qui dit, ah, maintenant j'ai compris. Et 3 mois plus tard, je leur disais, est-ce que tu es sûr d'avoir tout compris? Il faudrait peut-être que tu te rappelles. Parce qu'en fait, compte, oui, ils avaient compris à ce moment-là, mais très vite, ils ont perdu leur motivation, leur décision, ce à quoi ils s'étaient engagés. Et on reprend la vie comme avant. Frères et sœurs, je crois qu'il est important pour nous de bien nous ressaisir et bien de comprendre, c'est que nous avons besoin de l'espérance, non pas une fois tous les ans. Nous avons besoin chaque jour d'espérer. Nous avons besoin que cette espérance soit renouvelée chaque jour. Où va-t-on aller pouvoir faire le plein de carburant? Je me suis dit, chez Macro, ça devrait être moins cher. Je vais profiter de jumer. Où vais-je aller faire mon plein de ressources? Dieu est celui qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas. C'est lui qui a toutes les ressources et c'est vers lui que je vais me tourner. Frères et sœurs, faisons attention de ne pas être piégés par notre compréhension des choses et par notre théologie, par notre rationalité. Lisons ce que l'Écriture dit. Il nous guérit de toutes nos maladies. Alors, quand je suis dans un milieu de Pentecôte, je dis, il nous guérit de toutes nos maladies, d'abord spirituelles. Mais chez les autres, je dis, mais il peut aussi me guérir de ma maladie. Car Dieu est celui qui peut toutes choses et qui peut aussi toucher mon physique. Il est aussi celui qui peut me guérir de ma dépression. Il est celui qui peut me guérir de tout ce qui, aujourd'hui, cause du chaos dans ma vie. Mais regardons à lui et cherchons à lui, en lui. Tout ce qui, en fin de compte, il est capable de nous le donner. Voilà le message que j'avais et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu est grand. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te voulons te dire notre reconnaissance et te bénir de ce que tu es celui qui dépasse notre format, qui dépasse notre compréhension, qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, ce Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère, riche en son amour. Seigneur, que nous puissions ensemble, chaque jour, revivre cela, revivre ce que tu es, ce quels sont tes attributs, et que nous puissions nous nourrir de ta parole. Père, fortifie-nous par ton Esprit Saint, Seigneur, que ta parole soit éclairée par lui, et que nous puissions nous en saisir. Fortifie notre foi, nous t'en prions, et que notre espérance, qui est une espérance vivante, devienne une espérance que je vais pouvoir aussi communiquer et témoigner aux uns et aux autres qui sont dans la désespérance, qui sont dans le désespoir, qui sont aujourd'hui dans le chaos. Seigneur, tu es celui qui a créé toutes choses et nous sommes ta créature. C'est ce que nous confessons aujourd'hui, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.